Philosophie première, Père Philippe, 19 novembre 1982, Rimont.
Pour il y a a provoqué toutes les philosophies du possible. Pourquoi ? Ne peut-on pas donner les raisons suivantes ? Le sujet il est absolument indéterminé. Le sujet, oui, il. Il devient déterminé par l'objet qui suit A. Non, parce que A n'ajoute pas grand-chose, ça fait rien. Bon, c'est l'ordre de l'avoir, n'est-ce pas ? Et il a, donc, ce qu'on regarde donc en premier lieu, c'est la détermination du sujet et non son existence. C'est très vrai, c'est la détermination du sujet. Bon, il y a, c'est le donné, c'est ça qu'on veut dire. Je crois qu'il ne faut pas trop analyser il et A. Il y a, c'est pris quelque chose d'unique. C'est justement la différence entre le ceci et où je peux discerner le ceci et est. Tandis que quand je dis il y a, ça traduit le datum. J'allais dire, on prend les deux ensemble. C'est ceci, on ramène. Le il y a, c'est ceci, mais en voyant dans le ceci, à donner. Ceci est donné. Quand je dis ceci est donné, c'est-à-dire ceci est quelque chose qui est un fait. C'est un fait d'exister. Il y a, d'avenir. C'est une donnée. Tandis que quand je dis ceci est, voyez, mon jugement, dans l'expression même, implique ces deux. Alors je vois très bien, je peux très bien mettre l'accent sur le ceci ou l'accent sur et. Tandis que vous ne pouvez pas mettre un accent sur il y a. Vous ne pouvez pas dire il y a. Non. Il y a datour. Et ça, le latin dit la force. Hein. C'est le donné. C'est la chose qui m'est donnée. C'est la chose qui justement, que je présente comme quelque chose qui se présente à moi. Et puis c'est tout. Mais je n'insiste pas sur les deux aspects qui sont donnés dans le jugement d'existence. C'est ça qui est tout à fait particulier dans le jugement d'existence, c'est que je peux justement regarder le ceci et je peux regarder et. Je peux insister sur l'un ou l'autre. Bon, alors continuons. Le Y, il, non, il y a, indique un lieu. Il y a signifie donc cette chose indéterminée à ce lieu. Je ne sais pas absolument, je crois que c'est plus le datum. Là, vous prenez le français, je comprends très bien, vous le prenez, parce que le français n'est pas dit, mais je crois que si on remonte au latin, le latin est toujours plus rigoureux. Hein, et le datour montre que c'est quelque chose qui est donné. Alors, c'est un fait qui est donné. Et je ne crois pas qu'on puisse analyser. Parce que c'est justement ça qui caractérise ce fait de cette confusion. C'est une confusion ici. Il y a quelque chose qui est une confusion. On ne veut pas, puisque cette réalité qui est donnée, je ne la connais pas. Mon intelligence ne l'atteint pas. C'est uniquement les sensations qui me disent qu'il y a une donnée, mais mon intelligence ne l'atteint pas. Donc c'est quelque chose qui reste obscur. Et je ne crois pas qu'on puisse analyser alors successivement ces aspects-là. Alors, on voit donc qu'avec ce « il y a », on regarde en premier lieu la détermination. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est la détermination. C'est une détermination qui m'est donnée comme un fait qui m'est donné. Une détermination qui me dépasse et que je ne veux pas analyser, et que je n'analyse pas. Oui, et je crois que c'est ça qu'on doit voir. Alors, comprenons comment, du fait même, qu'on regarde le datum uniquement comme un donné, pratiquement, on revient au ceci, puisque ce donné implique une détermination. Ceci est donné. C'est le ceci. Donc ça implique une détermination. Si ça implique des déterminations, c'est très vrai, ça implique uniquement le point de vue de l'appréhension. Le point de vue du jugement n'est plus explicité. Puisque c'est l'appréhension qui saisit le ceci. D'une certaine manière, ce n'est pas uniquement l'appréhension. Hein, parce que l'appréhension, c'est l'acuité, tandis que le ceci, c'est déjà un sujet. Non, c'est un donné, donc c'est un sujet. Mais au fond, c'est quand même la détermination dans le ceci, je vois. Et c'est pour ça que je mets la flèche de ce sens-là. Dans le il y a, le est est inhibé dans le ceci. Et le ceci devient un donné. Et parce que le ceci devient un donné, c'est la détermination qui l'emporte, c'est donc l'appréhension qui l'emporte, le jugement est bien présent dedans, mais c'est l'appréhension qui l'emporte, et à partir de là, très facilement, on ne regardera plus que l'appréhension. Oui. Chez Occam, le jugement est donné dans le Latour. Mais alors on verra chez Descartes, c'est là le passage de Occam à Descartes, chez Descartes, alors on verra qu'il n'y aura plus que l'appréhension. Le jugement sera une donnée volontaire. Et donc on réduit la connaissance uniquement à l'appréhension. Et ce sera de fait, hein, il faut bien le voir, dans la base scolastique, c'est ce qui arrivera facilement, c'est que l'appréhension deviendra l'opération principale de l'intelligence et le jugement sera considéré comme quelque chose de secondaire. Quelque chose qui n'a pas directement d'intérêt. Vous voyez ? Et c'est l'appréhension qui prime alors. Bon. Il faut y réfléchir et essayer de comprendre, hein, ces deux aspects. C'est pas commode, c'est important de bien comprendre le jugement d'existence. Vous prenez, si je reprends le tōti d'Aristote, hein, il est bien évident, quand Aristote dit que le tōti, n'est-ce pas, est quelque chose de primordial, on dira l'ansit, hein, en latin, la première interrogation, la première chose qu'on saisit, est-ce que cette chose existe? Est-ce que cette chose existe? Il est évident que le tōti grec peut aussi bien regarder le ceci est que le datour. Ça c'est sûr, c'est pas précisé. Mais ensuite, quand de fait on a précisé, c'est-à-dire que on a ramené tout le jugement d'existence au datour, nous sommes obligés de faire la distinction. Je ne peux plus revenir au tōti d'Aristote qui ne distingue pas. Et je suis obligé de faire la distinction dans le jugement d'existence ceci est et le datour. Vous voyez, c'est comme toujours, hein. Opportet et reses esse. Il est nécessaire qu'il y ait des bêtises qui se disent pour que la vérité progresse. N'est-ce pas? On traduit ça de cette manière-là, au point de vue philosophique, puisqu'on ne peut pas parler d'hérésie. Donc on peut dire, il est nécessaire que certaines affirmations confuses soient dites pour que nous comprenions mieux certaines choses, et que certaines choses se précisent. Et alors, grâce à ça, on est obligé, confuse Occam, mais Occam a fait un tort énorme, puisque au fond, des quantités sont restées au datour. Et n'ont pas été plus loin. Ils sont restés au datour et donc sont restés à cette donnée confuse et première et n'ont pas essayé de comprendre plus profondément. Bon. Alors, maintenant, nous allons progresser parce que je vais passer indéfiniment sur cette question-là. Il faut essayer de saisir progressivement ce que ça représente. Alors, je vous ai dit, hein, je crois, une fois que nous avons ceci est, de comprendre la place de ce que Maritain appelle l'intuition de l'être. Je dis ça parce que c'est quand même important de bien saisir cela. Ceci est, bon, vous avez la possibilité de voir toute la diversité de ceci. En voyant la diversité de ceci, vous voyez que toute cette diversité se ramène à l'unité grâce à est. Est est facteur d'unité, et donc vous saisissez ce rapport très curieux de l'un dans le divers. Saisir l'un dans le divers peut être objet d'intuition. Peut être saisi d'intuition. Quand je saisis que est présent dans l'homme, est présent dans l'animal, est présent dans la table, je peux pas avoir cette espèce d'intuition. Cette intuition que Maritain appellera intuition de l'être. Et cette intuition de l'être, c'est tout simplement saisir à travers la diversité l'unité. Oui. Je dis ça parce que je crois que c'est intéressant de rattraper ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ce que dit Maritain. Pour ne pas s'opposer directement, mais essayer de réintroduire quelque chose qui est juste. C'est très vrai qu'il y a là une certaine intuition, puisque de fait, il y a une diversité l'unité. Grâce à cette intuition de l'être, hein, grâce à cette intuition, l'intuition est porteur d'admiration, vous savez bien. plus je suis intuitif, plus je suis capable d'admirer. Ce sont ceux qui n'ont plus aucune intuition, qui n'ont plus aucune capacité d'admirer. Ordinairement, c'est comme ça. Vous n'avez qu'à réfléchir dans votre vie, vous vous apercevez que quand vous êtes de temps en temps en état d'admiration, j'espère, n'est-ce pas, à moins que vous soyez déjà complètement blasé, alors quand vous êtes complètement blasé, à ce moment-là, il n'y a plus une capacité d'admiration. Et quand on est complètement blasé, il n'y a plus aucune intuition. C'est déjà dit, on l'a déjà dit, j'ai déjà vu ça, vous savez, le déjà vu. J'ai déjà vu qu'on dit « Ah mais oui, j'ai déjà fait un cours de métaphysique. Et si je vous interrogeais, je verrais que vous n'avez rien compris. » Et pourtant, quand vous écoutez le cours, vous dites « J'ai déjà vu. » Mais non, vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas compris. Oui, on a tout le temps à apprendre. C'est vrai, je ne peux jamais dire que j'ai terminé ma métaphysique. Quand je dis que j'ai terminé ma métaphysique, ça prouve que je n'ai rien compris. Parce que je sais que c'est l'intelligence qui cherche son bien en cherchant ce qui est. Et donc nous avons toujours à creuser indéfiniment et à redécouvrir indéfiniment. Et pour redécouvrir indéfiniment, c'est évident que le point de vue de l'intuition joue un très grand rôle. Et cette intuition va nous mettre... Donc en réalité, ce n'est pas une intuition de l'être. Hein. C'est l'intuition du rapport de l'unité dans la diversité. Voilà ce qu'on devrait dire. Ce n'est pas du tout l'intuition de l'être. C'est, quand on dit intuition de l'être, c'est équivalent. L'être n'est pas un rapport. Or, l'intuition porte sur un rapport, toujours. Toute intuition porte sur une relation. Je n'ai pas d'intuition de quelque chose d'invisible, d'indivisible. Il y a un toucher intellectuel, mais pas l'intuition. L'intuition, c'est toujours un rapport. Alors, j'ai une intuition du rapport de l'unité de l'être à travers la diversité. Je vois comment l'être fait, à travers toute la diversité, une certaine unité. Et ça c'est extraordinaire de voir ça. Alors, j'en ai l'intuition. Cette intuition va augmenter en moi la capacité d'admiration, je suis en état d'admiration. L'admiration, c'est l'aspect affectif. C'est l'aspect du sujet, le sujet connaissant qui est en état d'admiration. L'admiration est une ouverture. Hein. C'est ça, à la différence d'être blasé. L'admiration me pousse à aller plus loin. Parce que dans l'état d'admiration, je comprends qu'il y a quelque chose que je comprends et quelque chose que je ne comprends pas. Quand vous comprenez tout, il n'y a plus d'admiration. Il y a une contemplation. C'est la différence entre la contemplation et l'admiration. Tant qu'on est sur la terre, l'admiration est toujours présente à la contemplation. Ce sont les pères du XIIe siècle, les théologiens du XIIe siècle, tu vois, qui montrent très bien que l'élément d'admiration est nécessaire à la contemplation. Quand il n'y a plus d'admiration, il n'y a plus de contemplation. C'est vrai, ça, c'est très vrai. Parce que tant qu'on est sur la terre, la contemplation n'est jamais exhaustive, n'est jamais totale. Alors il y a toujours un élément d'admiration qui pousse à contempler plus. Mais la contemplation n'est pas l'admiration. Parce que l'admiration est un élément affectif qui porte sur le fait qu'il y a quelque chose que je connais, quelque chose que je ne connais pas. Qu'est-ce que je connais? La diversité. Ce que je ne connais pas, c'est l'être. Et donc c'est l'unité en cette diversité que je ne connais pas. Mais la diversité, elle s'impose, la vache, oui, je n'ai pas besoin d'être en admiration devant la vache. C'est vrai, je vais être en admiration quand je regarde son tube-tube, les trois estomacs de la vache, et que je vois que les estomacs de la vache sont extraordinaires et en harmonie merveilleuse. Alors ça, je peux être en admiration. Je n'ai qu'un estomac, la vache en a trois. La trinité des estomacs, la vache, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est étonnant dans la nature de voir ça. Alors, on peut être en admiration devant ça, parce qu'on ne comprend pas très bien la relation des trois. Mais normalement, la vache existe. Quand vous voyez une vache, vous ne tombez pas dans l'état d'admiration. Tandis que quand vous essayez de voir la différence entre la vache qui existe et vous-même qui existez, ça peut susciter en vous une intuition de l'être que vous ne saisissez pas, parce que c'est justement l'être que vous ne saisissez pas. C'est pour ça que c'est l'intuition de la diversité, de l'unité dans la diversité. C'est la diversité que vous connaissez et l'être que vous ne saisissez pas. Et alors à ce moment-là, il y a l'admiration. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et l'admiration conduit à la question. Qu'est-ce que l'être? Grande intervention, qu'est-ce là? Alors, comprenez là encore, je vais souligner, mais je reviens parce que c'est quand même important, la différence entre les Grecs et les modernes. Alors, je mets c'est pas pour opposer et exclure. Les modernes diront que c'est l'angoisse qui me conduit à la connaissance de l'être. Et les Grecs disent que c'est l'admiration. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est la question de comparer l'angoisse et l'admiration. Ce sont deux états affectifs. L'angoisse est un état affectif, mais un état d'inhibition. Normalement, quand on est angoissé, on est complètement inhibé. Tandis qu'au contraire, l'admiration, je ne dis pas que c'est un état d'exaltation, mais c'est un état qui n'est pas du tout d'inhibition. L'admiration me permet d'interroger. L'admiration est source d'interrogation. Tandis qu'au contraire, l'angoisse n'est pas source d'interrogation. C'est pas quand vous êtes angoissé que vous interrogez le plus. Quand vous êtes angoissé, vous essayez par tous les moyens de sortir de votre angoisse. Donc de saisir quelque chose encore. Tandis que l'interrogation, c'est pas saisir quelque chose, c'est aller plus loin. C'est un progrès dans l'interrogation. Tandis que vous ne cherchez pas le progrès dans l'angoisse. Vous cherchez la survie. C'est ça que vous cherchez. C'est la survie que vous cherchez dans l'angoisse, uniquement. Alors, c'est intéressant de voir ces deux états affectifs. L'un positif, l'autre négatif. L'angoisse est un état affectif négatif. Vous voyez le primat de la négation, que vous retrouvez du côté affectif, pour caractériser la modernité, hein, je vous ai dit. Regardez le point de vue de la négation avant l'affirmation. Et bien, vous le retrouvez ici, du côté affectif. C'est toujours très intéressant parce que l'affectivité vient confirmer. Et l'affectivité, c'est quelque chose de tellement net, il n'y a pas de danger quand on s'en aperçoit, que les modernes mettent l'angoisse comme source de ces vies d'être. Tandis que l'admiration, elle, est quelque chose de positif qui éveille mon intelligence. Je suis éveillé dans l'intelligence par l'admiration. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, comprenons bien que la signification de qu'est-ce que c'est que l'être et la signification de est est la même. Alors là, c'est le gros problème très important à bien saisir. Je vous ai dit, c'est tout le problème de Heidegger. Et ça, c'est très important à bien saisir. Parce que c'est très important de saisir que la signification de être ici est la même que celle du jugement d'existence, ceci est. C'est la même signification. Alors, il y a tout un très gros problème qui va se poser ici. Je mets un nota bene et nous essaierons de comprendre ça parce que c'est un très très gros problème au point de vue philosophique. C'est peut-être le problème le plus difficile par rapport à la philosophie contemporaine et par rapport à la philosophie analytique. Alors, c'est intéressant de voir. Dans la philosophie analytique, j'ai dialogué pendant ça, pour ceux qui, sont, qui se rappellent de Fribourg, se rappellent de ça, ce dialogue avec un autre professeur qui était de philosophie analytique. Et alors, il n'arrivait jamais à comprendre que ceci est autre chose que ceci. Vous savez, les centalaires de Kant, hein, c'est ça, centalaires réels ou centalaires tout court, c'est la même signification. La seule différence, c'est que les uns, je les ai dans ma poche, et les autres, je les ai dans ma tête. Vous voyez, alors le lieu est différent, là. Le lieu est différent. La situation des centenaires dans ma tête, je suis très riche, parce que je pense à des millions. J'ai une richesse extraordinaire, je pense à des millions. Est-ce que vous les avez dans votre poche ? Ah non, je les pense dans ma tête, c'est suffisant. Oui, c'est la même signification. Alors, c'est le gros difficulté, c'est ça. C'est que la philosophie d'aujourd'hui est très axée sur la signification, la philosophie analytique, très axée sur la signification et sur les définitions. Encore mieux. Parce que la signification est parfaite dans la définition. C'est quand je connais parfaitement quelque chose que, que je peux le définir. Donc c'est la signification parfaite, c'est la définition. Alors la très grosse difficulté, vous voyez, c'est de comprendre la signification. Elle est au niveau des catégories d'Aristote. Les 10 catégories me montrent les 10 significations diverses. Et ça, c'est vrai, c'est des significations immédiates. Les significations relèvent ici des déterminations particulières de ce qui est. Et parmi ces déterminations, il y a un au-delà de ces déterminations, le sujet, ce qu'Aristote appelle substance première. La substance première est déjà un au-delà des significations catégoriales. Vous voyez bien, vous connaissez tous les catégories d'Aristote. Hein? Les 10 catégories d'Aristote. Hein? Quels sont ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est que les 10 catégories d'Aristote? Qu'ils aient le courage de lever la main. Alors je suis obligé de m'arrêter un instant devant, parce que devant le peuple, je suis obligé de faire attention. Les 10 catégories d'Aristote. Je vous les nomme, et puis on essaiera de situer ça, parce que c'est important, je ne peux pas continuer si je ne vois pas ça. Parce qu'il y a un moment très important. C'est ce moment, pour moi, c'est le signal d'alarme, si on entre en métaphysique, si au contraire on reste suspendu. Donc c'est la différence entre la position réaliste et la position heideggerienne. Et comme Heidegger, c'est le dernier philosophe qui parle de l'être, on est attentif à lui. Comme je suis attentif à l'intuition de Maritain, parce que Maritain est quand même un philosophe qui a parlé de l'être, donc on doit faire attention. Alors, les 10 catégories d'Aristote, c'est une chose classique, hein, faut savoir ça dans sa vie. Et puis, il faut revenir souvent là-dessus, parce que c'est une chose classique, les 10 catégories d'Aristote. Parce que depuis Aristote, on n'en a pas ajouté une 11e. Si vous êtes très très génial, vous allez en ajouter une 11e, et vous ferez paraître un livre sur la 11e catégorie. Pour montrer qu'Aristote était une élite ici, et qu'il y en avait 10. Alors, à ce moment-là, vous allez montrer la 11e catégorie. Mais depuis Aristote, on n'a pas donné une 11e catégorie. C'est très curieux de voir ça. C'est intéressant, du reste, parce que ça pose un problème intéressant de savoir qu'est-ce que ça représente. Ce sont les 10 déterminations de la réalité. Alors, vous avez substance première, substance seconde. Et j'ai bien dit, la substance première, c'est le sujet, c'est Pierre. Pierre est au-delà des catégories, parce que c'est le sujet auquel tout est attribué. Catégorie veut dire détermination, attribution. J'attribue. J'attribue à Pierre, première attribution à Pierre, j'attribue homme. Pierre est un homme. C'est bien évident. Et c'est l'attribution principale, c'est l'attribution essentielle, c'est l'attribution primordiale. Pierre est un homme. Pierre est un animal, je peux dire aussi, hein, à certains moments. Espèce d'animal, hein, c'est très bien. Pierre est un animal. Bon, alors, c'est aussi une attribution essentielle. Il est animal. Il est raisonnable, c'est une attribution essentielle. Donc, tout ce qui regarde la substance, c'est-à-dire, on dirait dans un langage habituel, pas très très précis, mais scolastique décadente, on dirait tout ce qui regarde les sens. C'est la scolastique décadente. Vous voyez, on dit substance seconde égale les sens. C'est ce qui est attribué immédiatement à Pierre. J'attribue à Pierre la quantité. Ça, c'est la première chose. Je peux mesurer. Il pèse 110 kilos. Je dis, Pierre pèse 110 kilos. C'est sûr, il attribue, vous attribuez la quantité. C'est la seconde attribution. Vous attribuez la qualité, il est intelligent. Vous attribuez la qualité, il est intelligent, il est bon. Il a telle qualité, il a des yeux bleus. Ça fait partie des qualités. Vous attribuez la relation. C'est un homme de multiples relations. Il est relié à tel ou tel. Vous lui attribuez l'action. Il est capable d'agir. Vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parallèlement à l'action, vous pouvez lui attribuer la passion. Il est capable de pâtir. À un certain moment, il pâtit. À un certain moment, il agit. À un certain moment, il pâtit. Il a froid. Alors, quand il a froid, il pâtit. C'est-à-dire qu'au contraire, il se réchauffe. Il agit, il se réchauffe. Alors, 7. La question du temps. Pierre, le temps. Il est né à telle date. Je peux lui attribuer le lieu, il est né dans tel lieu. Je peux lui attribuer ce qu'on appelle le situs, c'est difficile à traduire, telle situation particulière par rapport au tout, parce qu'il est une partie du tout, et donc il a telle situation particulière. Et puis alors le 10e, c'est le point de vue de l'habitus, c'est-à-dire la voix. Il y a une relation particulière de Pierre par rapport à tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Il a un habit. Le premier à voir, c'est l'habit. Il a un habit. Il a des instruments. Quelquefois, ça fait partie de la voix d'une façon extraordinaire. Si vous lui arrachez ses instruments, c'est un homme malheureux. Il a des outils. Il a une paire de lunettes. Il a une pipe. Tout la voix, tout ça c'est la voix, c'est le fourre-tout. C'est l'homme est capable d'avoir ses relations. Et il est lui-même changé par ça. Vous voyez, au fond, c'est le droit de propriété. C'est le droit de propriété. C'est que, il y a une qualité particulière pour Pierre, c'est de posséder quelque chose. Par l'usage, il possède. Vous vous servez d'un crayon, parce que vous êtes servi de ce crayon longuement. Alors, il y a un certain droit vis-à-vis de ce crayon. Et non, si c'était celui du voisin, mais que le voisin ne s'est en servi qu'une heure, et vous vous en avez servi 10 heures, vous pouvez faire un petit litige. Le voisin l'a payé, mais il ne l'a pas utilisé. Vous ne l'avez pas payé, vous l'avez utilisé. Alors, où est le droit de propriété? Eh bien, métaphysiquement, le droit de propriété du côté de l'usage et pas du côté du paiement. Vous voyez que le métaphysicien est toujours révolutionnaire. À ce point de vue-là, c'est extraordinaire parce que c'est révolutionnaire. Tandis que si j'étais juridique et un homme de droit, ah non, c'est celui qui a payé, oui, la quittance. Il n'a pas utilisé en entreprise, c'est autre chose, mais il a payé. Tandis que du côté philosophique, on dira c'est celui qui a l'usage, droit de propriété. C'est extraordinaire ça. C'est intéressant de voir ça parce que ça fait comprendre comment l'aspect juridique, vous voyez, quelquefois, enfouit l'aspect métaphysique. C'est vrai que quand vous avez quelque chose et que vous ne l'utilisez pas, vous l'avez acquis par un droit conventionnel. Un droit conventionnel. Vous l'avez acquis par un droit conventionnel. Alors, au point de vue politique, c'est vous qui avez ce droit-là. Mais au point de vue philosophique, votre avoir progresse avec le point de vue du art. C'est ça la dixième catégorie. C'est une catégorie très extraordinaire, celle-là. Vous voyez, c'est celle-là qui va développer toute la phénoménologie. La phénoménologie ne développe pas les autres, mais développe celle-là. Parce que c'est l'avoir. C'est pour ça que c'est important. C'est notre avoir, c'est notre manière d'utiliser. Et nous sommes transformés par cela. Cette expérience que nous avons tous fait, très simple, tu vois, quand il y a un tas de vêtements les uns sur les autres, une pile. On arrive à distinguer son vêtement des autres par le toucher, par l'odeur. On arrive à discerner son vêtement. Les autres n'arriveront pas à dire « Ah, je vais chercher telle ou telle chose ». Non, il faut discerner. On le discerne de cette manière-là, de façon très curieuse. Ça, c'est l'habitus, c'est l'avoir. Parce qu'il y a quelque chose de nous. Il y a quelque chose de nous, vous voyez, qui a contaminé le vêtement. Ou qui l'enlève. Si vous êtes saint, votre vêtement sera gardé comme une relique. Donc vous l'avez ennobli, n'est-ce pas, de votre vêtement. Si vous n'êtes pas saint, ben non, vous l'aurez sali, tout simplement. Donc ce n'est pas tout à fait ennobli. N'est-ce pas, c'est la crasse qui gagne le vêtement. Tandis que si c'est la sainteté, vous avez autre chose. C'est curieux, hein? Au point de vue philosophique, de voir la transformation que l'homme fait subir à ce dont il se sert, et ce dont il se sert le transforme. Ça, c'est l'habitus, c'est l'avoir. C'est une catégorie très très intéressante, hein, très très particulière, et qui est particulière à l'homme. Vous voyez donc que les 10 catégories regardent l'homme, et non pas l'animal. Parce que l'animal n'a pas d'usage, même si vous mettez un petit habit au chien, parce qu'il fait froid. Hein, si vous mettez un petit habit au chien, eh bien, le chien n'use pas de cet habit. Il le supporte. C'est tout à fait différent. Hein, et c'est pour ça que de temps en temps, quand ça grassera, il prendra, il voudra manger. Hein, parce qu'il n'use pas. Il ne fait que supporter. C'est quelque chose qui vient d'extérieur. Tandis qu'au contraire, l'homme use d'un habit. Et quand il n'est plus humain, il le mange. Vous voyez, ça c'est l'action, la réaction de la vieille bête qui est en nous et qui réagit de cette manière-là. C'est l'avoir. L'avoir, c'est l'usage. C'est l'usage. C'est pas la relation, c'est l'usage. Chose très mystérieuse. Alors, réfléchissez bien sur les 10 catégories, parce que ça, c'est très important. C'est très intéressant. Les 10 catégories d'Aristote sont pré-philosophiques. C'est pas de la philosophie. C'est d'ordre descriptif. C'est d'ordre descriptif. C'est pré-philosophique. Je peux, très facilement, avec une toute petite intelligence philosophique peu développée, donc être pré-philosophe, hein, la propédeutique philosophique, c'est les 10 catégories d'Aristote. Et c'est vrai, on pourrait commencer la philosophie, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait commencer la philosophie en donnant les 10 catégories. Quand vous voulez connaître exactement quelqu'un, vous essayez de le mettre dans cette connaissance catégoriale. Vous auriez une très bonne fiche sur la personne. Très très bonne, c'est l'État, c'est vrai, l'armée, c'est l'État. C'est un peu ça les catégories, mais c'est beaucoup moins intelligent. Tandis que ça, c'est beaucoup plus intelligent. Ça donne les déterminations essentielles d'un individu. Vous voyez ? On ne fait pas ça pour les communautés. On aurait les catégories, la pesée, la quantité, la qualité, on mettrait tout ça. Alors les qualités, évidemment, c'est très très divers, vous comprenez bien. Les relations, l'action, sa capacité d'action, sa capacité de passion, et ainsi de suite. Les 10 catégories. Bon, les 10 catégories, c'est ce qui, pour nous, porte la signification immédiate. Il y a une signification dans quantité, qualité, relation, action, passion, signification immédiate. C'est de l'ordre de la signification. On dira d'une manière très précise que les 10 catégories représentent les 10 quiddités. Vous vous souvenez bien, on a regardé quiddité la dernière fois. Les 10 quiddités. Les 10 déterminations. Les 10 déterminations irréductibles de l'être physique. Les 10 déterminations irréductibles de l'homme. J'ai 10 déterminations irréductibles. Mon être se manifeste à moi dans ces 10 modalités. Et ces 10 modalités ont une signification. Alors, vous voyez le gros problème. L'au-delà de ces déterminations, c'est le sujet. C'est vrai, la substance première. Ce qu'Aristote appelle substance première dans les catégories. C'est l'au-delà. Et toutes ces déterminations sont attribuées à Pierre, à ce sujet. Eh bien, il y a un au-delà encore, le sujet comme tel, il a une nouvelle signification. Hein. Pierre a une signification particulière, qui n'est ni homme, ni quantité, ni qualité, ni les 10 déterminations. L'individu, Pierre, il a une signification propre, mais une signification ineffable, comme on dit. Pierre, c'est l'individu. Il ne peut pas signifier ce que c'est que Pierre. Mais pour le signifier, je prends les 10 catégories. Parce qu'en Pierre, les 10 catégories ont un ordre particulier, une harmonie particulière. Tandis que dans Jacques, ces catégories ont un autre ordre. Occam regarde l'individu par les 10 catégories en disant qu'il n'y a rien d'autre que ça. On est un tissu d'accidents sans nature pour Occam. On est un tissu d'accidents sans nature. Et donc l'individu, c'est simplement un ordre dans les 10 catégories. Et c'est les 10 catégories qui définissent ce que c'est que l'individu. C'est pas vrai. Parce qu'il y a la substance première, c'est ce que rappelle Aristote. Donc il y a un noyau fondamental qui est premier et qui fait que chaque individu a quand même une signification qui lui est propre. C'est pour ça qu'on met un nom pour exprimer cette signification. Quand je dis Jacques, je pense à Jacques. Quand je dis Pierre, je pense à Pierre. Et s'ils sont plusieurs, je vais me mettre Pierre 1, Pierre 2, Pierre 3, Pierre 4. C'est comme ça qu'on fait. Pour essayer de préciser justement que l'individu comme tel a sa signification. Mais cependant, il est au-delà des significations catégoriales. Il y a encore un au-delà de ces significations catégoriales. C'est de dire Pierre existe. Pierre est. Ceci est. Parce que le ceci implique les 10 significations catégoriales. Le est est au-delà de la signification des catégories. Alors, quelle est cette signification? Quand je dis Pierre est, Pierre existe, ceci est, quelle est la signification de ce est? Je sens très bien que c'est irréductible aux 10 catégories. Je ne peux pas dire la signification de est, c'est la substance. Non. La substance seconde. Non. Ce n'est pas non plus la substance première. Non. Parce que la substance première, c'est Pierre. Pierre peut très bien mourir et ne plus exister. Si je dis que est a comme signification la substance seconde, alors la quantité n'existe pas, alors que la quantité existe. Donc, est regarde toutes ces déterminations. Il transcende toutes ces significations. Il a donc une signification transcendantale. Il transcende, il dépasse toutes ces significations. Il a donc une signification transcendantale, au-delà des 10 catégories. C'est ça que ça veut dire, au-delà des 10 catégories. Il a une signification particulière. Mais comme c'est difficile de saisir cette signification, alors je comprends comment j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Et quand je me pose la question qu'est-ce que c'est que l'être, je cherche la signification transcendantale de l'être. Je cherche la signification au-delà des catégories de l'être. L'être a une signification qu'il n'est pas donnée immédiatement. Tandis que la quantité a une signification qui m'est donnée immédiatement. La qualité a une signification qui m'est donnée immédiatement. La relation a une signification qui m'est donnée immédiatement. Tandis qu'au contraire, dans la signification de l'être, il y a une signification qui est au-delà, qui transcende. Je ne peux pas dire que la signification de l'individu est transcendantale. Tandis que je peux dire que la signification de l'être est transcendantale. La signification de l'individu n'est pas transcendantale. Elle est au-delà des 10 catégories parce qu'elle les englobe. Mais elle les tient toutes. L'individu implique la signification des 10 catégories. Tandis que l'être est au-delà de la signification des 10 catégories. Donc, il transcende. Ceci, c'est pour vous faire comprendre. Hein. C'est ça que je voulais vous faire saisir. C'est pour vous faire comprendre la signification de l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être. Je mets en pleine lumière « est ». J'ai vu que « est », en raison de cette intuition de l'unité dans la diversité, que « est » est présent dans les 10 catégories. « Est » est présent dans les 10 catégories. « Est » est présent même dans cet au-delà des catégories qui est la substance première. Dans « Pierre », »,« Pierre, il existe ». Et quand j'ai dit « Pierre, il existe », je n'ajoute rien d'une certaine manière, à ces 10 catégories. Et pourtant, j'ajoute quelque chose. Puisque du fait même que j'ai dit qu'il existe, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, quelle est la signification de l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Je cherche à comprendre la signification de l'être. C'est pas commode du tout. C'est pas commode du tout de saisir ce que c'est que l'être. Une fois, j'ai vu un mime comme ça, un clown qui voulait saisir ce que c'était que la lumière. C'est très métaphysique, c'est extraordinaire. Quand on voit des clowns métaphysiques, métaphysiciens, c'est merveilleux. Bon. Il mime. Alors, il voulait faire comprendre à un mime ce que c'est que la lumière. Il essayait de capter. Il avait tout simplement, comme on prend, essayait de capter comme on prend un papillon, vous savez, il essayait de saisir la lumière. Oui, la lumière. Prend la lampe électrique, parce que la lumière, ça vient de là. C'est quoi ça? La lumière échappe. Je crois que c'est très très beau pour essayer de voir comment on peut capter l'être. L'être, vous ne pouvez pas le capter dans la quantité. Vous ne pouvez pas le capter vous ne pouvez pas l'appréhender. Parce que c'est ça, capter. Quand vous prenez un papillon, vous mettez dans votre filet, eh bien, vous n'avez pas de filet pour prendre l'être. L'être est au-dessus. Et pourtant, l'intelligence se saisit par le jugement. Ceci est. Donc, le est est au-delà de toutes les déterminations particulières. Alors, à première vue, on pourrait dire, mais « est » n'a pas de signification. Et c'est vrai, d'une certaine manière, il a une signification transcendantale. Il n'a pas de signification immédiate. Vous ne pouvez pas le capter. Parce que si vous le captez, vous le ramenez à ces 10 déterminations. Les choses que vous captez, ce sont ces 10 déterminations. Ça, vous les captez directement. Et l'individu aussi. Parce qu'il reste au même niveau, puisque c'est lui qui supporte toutes les autres. Alors, on comprend qu'on a une interrogation. Mais qu'est-ce que c'est que l'être? Je veux saisir ce que c'est que l'être. Vous voyez, c'est important d'insister sur le caractère tout à fait nouveau de cette interrogation. Et qu'au fond, cette interrogation est irréductible à toutes les catégories. Je ne peux pas répondre par une catégorie à cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, je comprends que cette interrogation a une valeur donc transcendantale. Elle dépasse toutes les catégories. Mais est-ce que la signification de être ici est la même que celle de ceci? Alors là, c'est une grosse interrogation et très très importante, puisque c'est là où on va voir la différence avec Heidegger. Est-ce que la signification de qu'est-ce que c'est que l'être et ceci est la même? Eh bien, je dis oui. En disant oui, je m'oppose à Heidegger. Et je dis, Heidegger n'a pas compris. Je dis que ça a la même signification. Pourquoi? Parce que, quelle différence y a-t-il? Je prends d'abord du côté de la grammaire, hein, parce que Heidegger prend du côté de la grammaire. Je prends du côté de la grammaire. Être, c'est la forme, l'infinitif, et là, c'est le présent. Quelle différence y a-t-il entre le présent et l'infinitif? L'infinitif a ce pouvoir de montrer un verbe sous une forme substantielle. C'est ça l'infinitif, l'être. Tandis que quand vous êtes le présent, ceci est, c'est pas du tout substantiel, c'est relatif à autre chose. Ça, c'est de la grammaire, tout simplement. Et la grammaire cache une forme de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot, le langage est toujours là pour indiquer une forme de pensée. Eh bien, il y a cette capacité que nous avons de pouvoir saisir une réalité qui est le verbe, sous une forme du présent, sous une forme du passé, sous la forme du futur et sous la forme de l'infinitif. L'infinitif est au-delà du temps. C'est pour ça qu'il a un mode substantiel. Parce que le propre de la substance, vous le savez bien, Aristote nous le dit, le propre du nom, c'est d'être au-delà du temps. Alors, l'infinitif est saisi au-delà du temps, l'être. Alors que ceci est dans le temps. Ceci était et dans le temps, ceci sera et dans le temps. Et donc, je vais essayer, en interrogeant qu'est-ce que c'est que l'être, je transforme le présent en infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je passe du concret à l'abstrait. La première forme d'abstraction, c'est le dépassement du temps. Dépasser le temps pour abstraire. Et montrer une forme à l'état pur. Blanc, blancheur. Là, c'est très facile à comprendre. Hein? Blanc, blancheur. Quand vous dites blanc du mur, blanc de la figure, blanc du vêtement, hein? Blanc de la neige. Donc, blanc est relatif à une substance. Tandis que quand vous dites blancheur, vous hypostasiez blanc. Vous prenez blanc pour lui-même et en lui-même. C'est le blanc en soi. Vous voyez, vous retrouvez Platon. C'est le blanc en soi, la blancheur. C'est ce par quoi le blanc est blanc, si vous voulez donner des définitions à la manière de Larousse. Ce par quoi le blanc est blanc. Ça vous avance beaucoup de dire la blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. C'est très fort de dire ça, vous savez, c'est très très fort. Quand vous demandez qu'est-ce que c'est que la blancheur c'est ce par quoi le blanc est blanc. Alors, vous avez compris. Vous comprenez que la blancheur ne peut se comprendre que par le blanc. vous ne pouvez pas comprendre la blancheur en soi. Ah, vous voyez, ça va, c'est incongru pour Platon, ça. Les formes en soi sont inintelligibles. La blancheur ne se comprend que par le blanc du mur. Parce que votre expérience ne porte jamais sur la blancheur. Vous n'avez pas d'expérience de la blancheur. Vous avez l'expérience du blanc du mur. Vous saisissez le blanc du mur. Donc, l'abstrait ne se comprend que par le concret. Ne saisit l'abstrait par le concret. Et Larousse le dit tout le temps. Donc, c'est un bien commun, ça. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Ce par quoi le blanc est blanc. C'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'être? Ce par quoi est ceci est. Mais le point de vue de l'abstrait renvoie au concret. Seul le concret est objet d'expérience. Seul l'individu concret est objet d'expérience. L'intelligence abstrait, pourquoi qu'elle abstrait alors, si ce n'est pas objet d'expérience? Ah, c'est tout simplement pour montrer telle forme en elle-même. Pour la montrer dans toute sa pureté. Les modernes disent thématiser. L'intelligence thématise. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est qu'elle est capable de séparer une forme de tout le contexte et de la regarder en elle-même. Quand vous regardez une forme en elle-même, vous lui donnez un sort unique. Quand je dis qu'est-ce que c'est que l'être, je ne veux regarder que l'être. Je sépare l'être du ceci. Alors, quand vous dites « est », vous ne le séparez pas du « ceci ». Et vous le séparez du « ceci ». C'est pour ça qu'on peut très bien dire que l'être n'existe pas. C'est un livre que vous devriez écrire. L'être n'existe pas. Parce que l'être n'existe que dans le « ceci est ». Alors, une fois que vous avez compris que la signification de « être » est la même que celle du « ceci est », quand vous interrogez qu'est-ce que c'est que l'être, vous pouvez revenir à l'expérience. C'est pour ça que c'est si important.